Il est 6h44 en temps universel. Dans un instant, nous retournerons aux Comores qui célèbrent le 50e anniversaire de leur indépendance ce dimanche. Indépendance inachevée pour certains avec l'épineuse question de Mayotte. Et alors que le taux de pauvreté devrait légèrement baisser cette année sur l'archipel, nous irons prendre la température auprès de la jeunesse du pays suite et fin de notre série de reportages sur place. De la politique française également au programme, on pourrait l'appeler le survivant François Bayrou qui a échappé cette semaine à une 8e motion de censure, un nouveau sursis qui va lui permettre de se pencher sur le dossier du moment, celui du budget. Et c'est loin d'être gagné, nous dira Valérie Gasse dans la chronique politique. Et puis un mot des articles à retrouver sur le site internet de RFI.fr ce matin et notamment cette focale sur les NN's Games, aussi appelés les Jeux du Dopage. Première édition du 21 au 24 mai de l'année prochaine pour cette compétition où les athlètes seront autorisés et même encouragés à se doper. Explication à retrouver donc sur le site internet de RFI, 6h45 en temps universel. Nous sommes le dimanche 6 juillet. Il est 15h42 à Séoul et Pyongyang, direction donc la péninsule coréenne. Une bande de terre coupée en deux par la zone démilitarisée qui sépare les territoires des deux Corées. Et au milieu, des barbelés, des miradors, des tours de guet, ce sont les abeilles qui prospèrent sous l'œil attentif de quelques apiculteurs qui produisent un miel unique au monde. Des artisans qui tentent de protéger la biodiversité exceptionnelle de ce lieu hors du temps. Reportage à Paju, Celio Fioretti.
Passé le poste de contrôle de la première division d'infanterie sud-coréenne, nous retrouvons Park Johnson, apiculteur en plein cœur de la zone démilitarisée, tout proche de la frontière avec la Corée du Nord. Un petit terrain entouré d'arbres, loin de la civilisation, une zone unique dans laquelle il a choisi de travailler.
Ma mère est sud-coréenne, mais mon père est nord-coréen. Il est venu au sud après avoir fait défection. Je suis né non loin d'ici, à Paju, mais je voulais vraiment me rapprocher du pays de mon père. Donc j'ai pris un terrain ici.
La zone démilitarisée, interdite aux civils, est par accident un havre de biodiversité. Loin des hommes et de la pollution, c'est un endroit parfait pour les abeilles. Mais au loin, des explosions se font entendre, nous rappelant que l'armée n'est pas très loin, ce qui est parfois un casse-tête pour l'apiculteur.
L'armée ne me laisse venir ici que de 8h à 18h, ce qui peut être embêtant, car parfois je dois venir très tôt ou rester très tard pour m'occuper des abeilles. Mais je suis forcé de partir et d'attendre les heures d'ouverture de la zone démilitarisée.
Une réserve de biodiversité bien protégée par les armes, mais qui n'est pas immunisée contre l'étalement urbain, une menace pour les abeilles de M. Park.
Chaque année, ils enlèvent des barbelés et commencent à construire de plus en plus à l'intérieur de la zone démilitarisée. Des logements, des usines. Chaque barbelé enlevé est une menace de plus pour la nature et toutes les autres espèces qui vivent ici. Il faut les protéger.
Au-delà de l'environnement, Park Johnson, par son parcours familial et professionnel, est un véritable trait d'union dans une péninsule coupée en deux. Au travers des barbelés, il rêve un jour d'une réunification avec le pays de son père.
Comme beaucoup d'autres ici, je suis partisan de la réunification des deux Corées. Mon rêve serait d'aller en Corée du Nord, élever mes abeilles sur la montagne sacrée Paektusan.
Celio Fioretti, de retour de Paju, RFI.
Les abeilles et la guerre, le reportage de Celio Fioretti dans la zone démilitarisée sud-coréenne, entre le sud de la Corée et la Corée du Nord, est à retrouver sur RFI Pure Radio.
RFI, toute l'actualité, Pierre Boudias.
L'actualité de ce dimanche 6 juillet, ce sont les négociations pour une trêve à Gaza qui vont reprendre au Qatar. Israël annonce l'envoi d'une délégation pour évoquer l'accord de cessez-le-feu sur lequel le Hamas se dit prêt à négocier. Sur la table, 60 jours d'arrêt des combats et la libération de 10 otages israéliens en échange de celles de détenus palestiniens. Aux États-Unis, Elon Musk défie l'hégémonie politique du duo républicain-démocrate. Le milliardaire annonce la création du Parti de l'Amérique, nouvelle formation politique. Le patron de Tesla en pleine brouille avec Donald Donald Trump, dont il critique la loi budgétaire qui va, selon lui, mettre les États-Unis en faillite. Les États-Unis, où le bilan des inondations au Texas s'alourdit à nouveau, 50 personnes ont perdu la vie après les crues records de ces derniers jours. Une trentaine d'enfants sont toujours portés disparus. Au Libéria, le président Joseph Boakai a présenté hier les excuses de l'État libérien pour la violence et les traumatismes causés par les deux guerres civiles qui ont dévasté le pays entre 1989 et 2003. 250 000 victimes à déplorer. C'était lors d'une cérémonie de réconciliation dans la capitale Monrovia, quelques jours après avoir participé à un hommage posthume aux anciens présidents Samuel Doe, torturé et tué au début de la guerre civile, et William Tolbert, assassiné en 1980. Et puis l'Euro de football débute bien pour les Françaises. Les Bleus s'imposent 2-1 en Suisse face à l'Angleterre. Petit exploit face aux tenants du titre. Elle nous présente ses têtes d'affiche chaque dimanche sur nos antennes, Denise Épotet de TV5 Monde et sur RFI avec Nicolas Brousse.
Bonjour Denise Épotet.
Bonjour Nicolas Brousse.
Dans votre palmarès cette semaine, deux jeunes innovateurs passionnés de robotique. Le premier est originaire du Niger. Abdul Majidou Moussa est diplômé en électromécanique de l'Institut spécialisé des technologies appliquées interentreprises de Casablanca. Il a fondé Mage Creativity, une start-up de robotique qui a conçu avec des matériaux locaux un prototype de moto électrique baptisé Made in Niger.
C'est pour assouvir sa passion qu'Abdul Majidou Moussa s'est formé tout seul en robotique et en intelligence artificielle afin, dit-il, de créer des solutions technologiques pour contribuer au développement du continent en révolutionnant la mobilité malgré l'état des routes. En attendant de réaliser son rêve, intégrer MIT, l'une des meilleures universités au monde, à Niamey au sein de sa start-up, depuis 2021, il peaufine le prototype d'une trottinette électrique dont les pièces en aluminium ont été produites localement. Quatre modèles sont en cours de préparation, le collégial destiné aux élèves avec une vitesse limitée, l'universitaire avec une vitesse renforcée, le national, une version polyvalente adaptée et le dernier modèle avec une autonomie augmentée destinée aux livraisons. Abdul Majidou Moussa figure dans le prestigieux classement 2025 de Forbes Afrique des jeunes de moins de 30 ans qui sont les nouveaux visages du leadership africain.
Également passionné de robotique, João Antonio Rego est lui originaire du Mozambique, dans un pays qui compte près de 3 millions de déficients visuels. Le jeune étudiant en ingénierie électronique a conçu Vision Hope, des lunettes intelligentes.
C'est dans la salle à manger de la maison familiale à Matola, dans la banlieue de Maputo, que João Antonio Rego travaille depuis 4 ans sur des lunettes connectées afin d'offrir une autonomie aux personnes déficientes visuelles qui ne peuvent s'offrir une canne et encore moins un chien guide dont le coût varie entre 15 000 et 25 000 euros. Ressemblant à un casque de réalité virtuelle qu'il a recouvert d'un tissu, les lunettes sont reliées à une batterie qui se porte en bandoulière. Elle est dotée d'un système intelligent qui signale son niveau de charge. Équipée de capteurs dans un rayon de 120 degrés, elle détecte les obstacles et émet des vibrations pour prévenir le porteur. En attendant de nouer des partenariats pour produire ces lunettes connectées, João Antonio Rego travaille sur de nouvelles fonctionnalités pour détecter des obstacles fins tels que des brindilles, des cordes ou des flaques d'eau. Des cobayes lui ont également suggéré d'intégrer la voix afin de préciser le type d'obstacle rencontré sur leur chemin. Cette innovation a valu au futur ingénieur en électronique de remporter en 2022 le prix du jeune créatif pour l'innovation technologique.
Et merci Denise Épotet au micro de Nicolas Brousse et à dimanche prochain pour de nouvelles têtes d'affiche. Nous en parlons largement ce matin sur nos antennes. Les Comores célèbrent ce dimanche 6 juillet le 50e anniversaire de leur indépendance. Suite et fin aujourd'hui de notre série de reportages exceptionnels dans l'archipel. À cette occasion, aujourd'hui, quelles sont les aspirations de la jeunesse comorienne? Sur place, plus de 53%, plus de la moitié donc de la population à moins de 20 ans selon la Banque mondiale. Banque mondiale qui estime que le taux de pauvreté devrait passer de 38 à 36% de la population en 2030. Une perspective, il faut bien le dire, moyennement enthousiasmante. 50 ans après l'indépendance, à quoi rêve la jeunesse comorienne pour son avenir? Rester, construire, partir? Reportage de notre envoyé spécial David Bachet.
Ben Abdourahman a 29 ans, une femme et un bébé d'un mois et demi. Ils vivent à Mitsoudje, 15 km au sud de la capitale, Moroni. Sa vie ne prend pas la direction dont il avait rêvé, mais il ne baisse pas les bras.
Je suis parti à Madagascar faire des études de droit et en Sciences Po. J'ai pas échoué, mais au final, j'ai pas pu terminer mes études à cause des moyens financiers. J'avais des rêves, j'avais des envies, et c'est pas ce que la vie m'a réservé. Aujourd'hui, je me suis lancé dans l'agriculture. J'ai une vache et je cultive aussi de la banane, du manioc. À l'avenir, j'aimerais ouvrir une entreprise dans l'agriculture, la transformation. J'aimerais que mes produits soient valorisés dans le national. Ça peut marcher.
Kaviani Moumini, 27 ans, travaille dans une pharmacie de Mbeni, dans le nord-est de l'île de Grande Comore. Qu'il se verrait bien quitter.
Je gagne un peu, je me sens un peu bien, mais pas trop. Si j'aurais la possibilité ou l'occasion de partir à l'extérieur pour gagner de ma vie, je vais le faire. Ici aux Comores, la situation est très difficile. Je ne gagne pas suffisamment. Je te le dis, j'ai envie de partir. Si j'aurais l'occasion, je vais le faire. Mais en France, on peut partir là-bas. Comme on ne gagne pas ici, on préfère de partir à l'extérieur.
Hachmi Oumar Husseini, 21 ans, sera bientôt diplômé de l'université de Moroni, une licence en soins obstétricaux. Née sur l'île d'Anjouan, elle compte encore voyager, mais pas pour émigrer.
J'aimerais vraiment aller à l'étranger, faire une spécialité, échographiste par exemple, puéricultrice.
Et ça, il faut le faire à l'étranger ?
Oui, il n'y a pas de formation Comore. Pour le faire, il faut aller à l'étranger. J'aimerais bien en France ou au Sénégal ou au Maroc. Le but, c'est de revenir, participer aussi à l'évolution du pays. Il y a plein de choses qui ne sont pas dans notre pays et c'est à nous d'apporter ça ici. Ce ne serait pas bien d'aller apprendre et rester là-bas, mais ce serait bien de revenir ici, apporter notre savoir.
Un enthousiasme qui contraste avec la résignation de bien des Comoriens, usés par des années d'immobilisme. Hachmi Oumar Husseini, elle, se veut résolument optimiste et constructive. David Bachet, de retour de Moroni, RFI.
Et merci David. Et vos quatre reportages exceptionnels aux Comores sont bien sûr à retrouver sur le site internet rfi.fr. Allez, on poursuit notre loi des séries sur RFI, série d'été, cette fois avec 100% création qui nous emmène à la découverte des métiers d'art et des artisanats d'exception du mobilier national. Rencontre aujourd'hui avec les tapissiers et plus particulièrement avec l'atelier de tapisserie que dirige Julia Blin. C'est Maria Afonso qui l'a rencontré. I'm an
alligator. La création m'anime, ça a toujours été. La création pour moi, c'est pas que faire des œuvres d'art monumentales comme les tapisseries ici.
Julia Blin, technicienne d'art, artiste lycée.
Je pourrais pas vivre sans créer. J'ai besoin de ça au quotidien. Je le fais ici, je crée aussi à l'extérieur. Ça fait partie de moi et je pense que ça fait partie de pas mal de personnes qui travaillent ici en fait.
Née à Strasbourg, Julia Blin, fille de militaire, a beaucoup bougé pendant son enfance. Le textile fait partie de sa famille avec notamment des grands-mères dentelières et un frère styliste. Après son baccalauréat littéraire, elle intègre les Beaux-Arts où elle confirme son attrait pour le textile. Elle consacre son sujet de mémoire d'études à la manufacture des gobelins. Curieuse et déterminée, elle décide d'en faire son métier en se spécialisant dans la tapisserie. Elle travaille aujourd'hui dans l'atelier tapisserie avec une quinzaine d'autres lycéens impliqués dans la création et la restauration de grandes œuvres textiles en équipe et sur des projets ambitieux. La complexité des formats, leur taille nécessite une dynamique collective dans l'atelier où l'entraide et la cohésion sont indispensables.
Je pense que s'il n'y avait pas une bonne dynamique au sein de l'atelier, le travail ne serait pas aussi agréable. On a quand même des métiers à tisser qui sont monumentaux. On monte un métier de A à Z toute seule. Donc on a besoin de s'entraider énormément. Pour ça, je peux remercier aussi mes collègues. Même si on ne travaille pas ensemble sur les mêmes tapisseries, le fait d'avoir le regard d'une autre collègue sur ce qu'on vient de faire, sur les questions qu'on se pose, ça permet d'avancer et magnifier le rendu final.
Julia Blin apprécie la diversité des projets. Pour donner vie à des œuvres sur mesure, la collaboration avec les artistes et designers est toujours enrichissante.
Ce qui se passe de plus en plus, c'est qu'on va chercher des artistes en particulier, l'administration fait appel à eux et si ça les intéresse, l'artiste vient visiter les ateliers, fait son modèle en fonction de la technique et tout ça. Au long terme, sur une tapisserie, les relations avec les artistes peuvent être très différentes. Il y a des artistes qui vont être très impliqués. Il y a des artistes qui vont dire « Ok, là, je sais pas faire, donc je vous fais confiance. » Alors là, c'est le meilleur des cas. Hein. Et il y a des artistes qu'on ne voit jamais. Dans tous les cas, il y a quand même une fin heureuse, on arrive quand même à faire des tapisseries. Hein.
Retrouvez l'univers de Julia Blin sur RFI.fr, chronique 100% création, et sa version longue en podcast sur RFI Pure Radio.
Maria Afonso, dans un instant, un nouveau journal à suivre sur RFI avec Marion Cazanov. C'est le Proche-Orient et la détresse des familles des otages qui s'affichent à la une.
L'atelier des médias, Steven Jambot.
Je reçois Cathy Brem, directrice de l'innovation à France Télévisions et rédactrice en chef de Métamédia, qui vient de publier un cahier de tendances dont le titre est « Bienvenue en post-réalité ». Nous parlerons du rôle des journalistes, notamment à l'ère de l'intelligence artificielle. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 11h10 temps universel sur RFI et dès maintenant en podcast pour l'atelier des médias.
Allô, Elias.
Soul Beats Music et RFI Talent présentent Elias. Découvrez Locataire, le nouveau single de l'artiste des Comores, en version remix avec le rappeur comorien Chucky Mistares. Disponible sur toutes les plateformes.